Bienvenue sur cette nouvelle capsule d'information astronomique du Planétarium de Montréal pour le mois de mai 2009. Le chaudron de la Grande Ourse est probablement le groupe d'étoiles le plus connu de l'hémisphère boréal. Mais bien peu de gens savent que la plupart des étoiles qui le dessinent font partie d'un amas d'étoiles très étendu, le groupe de la Grande Ourse. À chaque printemps, la Grande Ourse passe au-dessus de nos têtes en soirée, une position idéale pour étudier cet amas d'étoiles le plus rapproché de la Terre. Les sept étoiles du Grand Chaudron sont connues depuis l'Antiquité. Pour les anciens Égyptiens, ce groupe d'étoiles dessinait un hippopotame. Pour les astronomes hindous, il représentait les sept sages. Mais ce sont les Grecs de l'époque classique qui ont donné au Chaudron la connotation moderne qui nous est plus familière. Pour eux, c'était Arctos, l'ours. Aujourd'hui, ces sept étoiles représentent la queue et l'arrière-train de la Grande Ourse. Mais ces cultures anciennes ignoraient que les cinq étoiles centrales du Grand Chaudron, soit Mizar, Aliot, Megrez, Fekda et Merak, partagent une origine commune dans une nébuleuse qui s'est aujourd'hui dissipée. Les étoiles aux deux extrémités du Chaudron, Alcaïde et Dubé, n'ont quant à elles aucun lien de parenté avec le groupe. Elles font partie de la constellation par simple effet de perspective vue de la Terre. C'est l'astronome Richard Proctor qui, le premier, a compris que la plupart des étoiles du Chaudron se déplacent ensemble dans l'espace. Après avoir perdu toute sa fortune en 1866 dans la faillite d'une banque néo-zélandaise, comme quoi les choses n'ont pas vraiment changé, Proctor s'est consacré à l'astronomie pour refaire sa vie. Au terme de 5 années passées à mesurer le mouvement propre des étoiles, Proctor est arrivé à la conclusion que la plupart des étoiles du Chaudron partagent un mouvement commun dans l'espace. Toutefois, il était loin de soupçonner à quel point le groupe de la Grande Ourse est vaste. Nous savons aujourd'hui que le cœur de ce groupe compte 14 étoiles. Elles constituaient le noyau d'un amas ouvert qui est né au sein d'une nébuleuse il y a environ 500 millions d'années. Avec le temps, cet amas s'est dispersé et il s'étend maintenant bien au-delà de la Grande Ourse. En 2003, l'astronome Jeremy King s'est servi du satellite Hipparcos pour mesurer avec grande précision la vitesse et la distance de 220 étoiles soupçonnées d'appartenir à l'amas d'origine. 59 d'entre elles ont passé le test. Il se trouve que Gemma, la plus brillante étoile de la couronne boréale, Mencalinan, seconde étoile du cocher, Bêta du serpent, Zeta du lion et Zeta du bouvier, pour n'en nommer que quelques-unes, font toutes partie de ce qu'il convient de nommer le courant de la Grande Ourse. On a même soupçonné un temps Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, d'en être membre. Les observations subséquentes ont toutefois permis d'exclure cette possibilité. Les cinq étoiles du Chaudron au cœur du courant de la Grande Ourse sont actuellement à 80 années-lumière de la Terre. Les plus lointaines des 45 autres étoiles membres de cette vaste famille se trouvent à 400 années-lumière de nous. Toutes les étoiles du courant de la Grande Ourse se déplacent en formation dans l'espace et filent à la vitesse de 46 km par seconde vers la constellation du Sagittaire. Elles sont 10 fois plus jeunes que le Soleil, un peu plus âgées que les Pléiades, mais pas autant que les Iades. À l'heure actuelle, le Soleil se trouve à la périphérie du groupe, mais notre perspective changera au cours des prochains 100 000 ans à mesure que ces étoiles défilent près de nous. Le Grand Chaudron se déformera ainsi lentement jusqu'à devenir pratiquement méconnaissable. Mai est le meilleur mois pour observer la Grande Ourse. Ses étoiles passent au zénith tôt en soirée. Les nuits s'adoucissent et le ciel n'est pas encore chargé de l'humidité de l'été. En somme, c'est le moment idéal pour sortir sous la voûte étoilée, contempler le Grand Chaudron et méditer par la même occasion sur le caractère éphémère des constellations. Du côté des planètes maintenant. Les planètes Vénus et Mars forment un duo dans le ciel de l'aube au-dessus de l'horizon est. Bien que les deux planètes soient très basses à l'horizon, Vénus est si brillante qu'elle est visible sans difficulté et nous sert de guide pour repérer Mars plus bas et sur la gauche. Le matin du 21 mai, le mince croissant lunaire reposera juste au-dessus des deux planètes, un regroupement exceptionnel à admirer aux jumelles. Pendant que vous attendez que Vénus et Mars se lèvent au-dessus de l'horizon est, Jupiter sera une cible de choix. La planète géante apparaît beaucoup plus haut au sud-est avant même que l'aube ne commence à poindre. Il s'agit du troisième objet le plus brillant dans le ciel nocturne après la Lune et Vénus, et il est impossible de le manquer parmi les étoiles relativement faibles du Capricorne. Même dans un petit télescope, les bandes nuageuses et les principales lunes de Jupiter vous étonneront. Le 17 mai, le dernier quartier de lune s'arrêtera au-dessus de la planète et ajoutera à la beauté de la scène. Pendant ce temps, on retrouve toujours Saturne sous la constellation du Lion. C'est la seule planète actuellement visible en soirée. Depuis plusieurs mois, ces anneaux nous apparaissent presque par la tranche, ce qui les rend plus difficiles à bien distinguer. Mais en mai, les anneaux s'inclinent davantage, jusqu'à 4 degrés. Ce sera leur ouverture maximale d'ici novembre prochain. L'occasion est donc idéale d'observer Saturne. La lune gibbeuse glissera sous la planète aux anneaux le soir du 3 mai et à nouveau les 30 et 31 mai. Quant aux étoiles du printemps, elles occupent le centre du ciel en soirée. Le Lion, le Bouvier, la Vierge, l'Hydre et le Corbeau dominent la perspective vers le sud. Regardez sous la Grande Ourse pour trouver le Lion et suivez la courbe du manche du Chaudron pour localiser Arcturus, la plus brillante étoile du Bouvier. Sous le Lion, l'Hydre, la plus vaste de toutes les constellations, serpente le long de l'horizon du sud-est au sud-ouest. Sur son dos, on retrouve le Corbeau. Et au centre de toute cette faune fantastique, la Vierge veille sur un champ de lointaines galaxies. Pendant ce temps, près de l'horizon est, la Lyre, le Cygne et l'Aigle attendent de prendre leur place dans le ciel de l'été. N'oubliez pas de visiter le site astronomie2009.ca pour connaître les prochaines soirées publiques d'observation organisées par des groupes d'astronomes amateurs de votre région dans le cadre de l'Année mondiale de l'astronomie. Vous pourriez bientôt vivre votre propre moment galiléen en découvrant Saturne ou la Lune à travers l'oculaire d'un télescope. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans la section intitulée « Dans le ciel » du site Internet du Planétarium de Montréal au www.planétarium.montréal.qc.ca. Vous pouvez également joindre le Planétarium de Montréal par téléphone au 514-872-4530. Cette capsule est une production du Planétarium de Montréal. Texte, Louis Bernstein. Prise de son, Mathieu Forcier. Webmestre, Marc Jobin. Ici Pierre Chastenay qui vous dit bonnes observations et à la prochaine.